Alors, je suis en compagnie du père Philippe Capel-Dumont. Bonjour, père.
Bonjour.
Alors, nous sommes au Collège des Bernardins, mais vous allez nous expliquer un petit peu qui vous êtes aujourd'hui.
Bon, je suis ici parce que je suis président de l'Académie catholique de France, dont le Collège des Bernardins est membre. Et notre Académie a son siège social dans cet endroit tout à fait prestigieux, qui a été restauré il y a une quinzaine d'années. Sous la volonté du cardinal Lustiger, qui voulait faire de cette ancienne abbatiale cistercienne un haut lieu de la culture parisienne et même française et au-delà. Et aujourd'hui, cette maison est absolument magnifique. Enfin, j'invite y compris les Québécois à venir visiter cette maison tout à fait extraordinaire qui a été inaugurée par le pape Benoît XVI en septembre 2008. Alors, l'Académie catholique de France a son siège social ici, mais évidemment, sa programmation, sa réflexion, ses propositions intellectuelles sont évidemment différenciées de la vocation propre du Collège des Bernardins. Mais enfin, je suis très heureux que nous soyons ici parce que c'est un haut lieu de la culture catholique, en tout cas, qui est un haut lieu qui a pour objet de diffuser la grande mémoire chrétienne et intellectuelle, théologique, spirituelle, philosophique, dans toutes les sphères de la société et de la culture. Donc, voilà pourquoi nous sommes ici et je suis très heureux que ce symbole puisse retentir jusqu'au Québec.
Pouvez-vous nous brosser un bref aperçu de votre parcours? En commençant par votre enfance, votre milieu familial, le terreau dans lequel vous allez grandir.
Vous m'obligez à faire une psychanalyse.
En amont.
Alors non, je suis né dans une famille dont le père était un industriel du bois, un petit industriel, et ma mère était professeure. Et donc, d'une certaine manière, j'ai vécu mon enfance balancée entre un côté, comment dirais-je, une volonté d'action économique, de présence dans la société, dans ses rouages les plus complexes, et puis de l'autre côté, une mère plus intellectuelle. Et donc, j'ai hérité en quelque sorte de cette double polarité. Et j'ai grandi dans, pour dire toujours sur deux jambes, c'est-à-dire que j'ai grandi à la fois dans, toujours dans l'intention de penser les choses et en même temps d'agir. Et j'ai toujours eu cette espèce de balancement dans ma vie. Je ne suis pas simplement quelqu'un qui s'efforce de penser les choses et de les commenter, mais j'essaye aussi d'initier des choses. Alors les amis qui me veulent du bien ou du mal disent que je fonde beaucoup, mais j'aime à dire que je fonde en pensant et j'essaie de penser en fondant. C'est-à-dire que je pense que mon enfance est certainement la mémoire inspiratrice de cette double attitude qui fait que je marche sur ces deux jambes. Voilà, donc j'ai un itinéraire de formation de philosophe. J'ai étudié dans les années 70 à la Sorbonne. J'ai fait une thèse de philosophie, j'ai fait une thèse de théologie, j'étais jeune assistant. À l'Institut catholique de Paris, dont je suis devenu professeur puis doyen pendant 12 ans comme philosophe. Et donc aujourd'hui, je suis professeur à l'Université de Strasbourg, j'enseigne la philosophie, mais en même temps, je dirige plusieurs programmes de recherche. J'ai fondé la chaire de métaphysique Étienne Gilson. Je ne voudrais pas faire peur à vos auditeurs en employant le mot métaphysique, mais enfin, c'est une science qui essaye de penser quand même le fondement des choses, hein, pour faire court. Également, je dirige plusieurs collections éditoriales parce que je pense là aussi que la pensée doit pouvoir être diffusée. C'est ce que je vous disais en commençant. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de penser, il faut aussi réunir les conditions de la diffusion de la pensée. À quoi bon penser s'il n'y a pas de récepteur ou de conditions de diffusion de cette pensée? Donc j'ai fondé plusieurs collections, trois, qui ont pour objet essentiellement de mettre en articulation dans la culture contemporaine l'exigence philosophique, la rationalité, penser en raison, penser la sagesse du monde, et en même temps faire valoir l'inspiration proprement chrétienne des différents objets qui se présentent à nous, hein, la culture, l'histoire des idées, que le christianisme comme tel est plein de ressources aussi pour penser le monde. Donc ma vie intellectuelle, et je parlais des deux jambes, j'ai d'autres deux jambes, j'ai un autre binôme, c'est la foi et la raison. Au fond, je me suis toujours mu en tant que croyant et en même temps en tant qu'homme de raison. Je n'ai jamais sacrifié l'une au bénéfice de l'autre. J'ai toujours considéré qu'il fallait avancer dans cette tension et que cette tension comme telle était féconde. C'est pourquoi j'ai créé la collection Philosophie et Théologie. J'ai créé la collection Philosophie de la Religion. J'ai créé une collection de métaphysique en lien avec le christianisme. Voilà, donc les 40 livres que j'ai écrits à peu près sont au fond l'écho, l'expression de cette recherche qui m'habite. Quelquefois, on a l'impression que les philosophes ou les intellectuels sont dans les nuages éthéré. Non, il faut absolument se départir de cette fausse idée. C'est une volonté délibérée de penser non seulement le monde tel qu'il est, mais aussi de voir quelles sont les ressources pour que lui-même puisse croître, avancer sur de bonnes bases. Hein. Au fond, ce que j'essaie de faire, c'est, y compris auprès de mes étudiants, c'est de donner une colonne vertébrale. Que voulez-vous faire sans colonne vertébrale? Comment pouvez-vous marcher? Comment pouvez-vous agir? Donc la colonne vertébrale est une manière de se tenir debout afin de pouvoir marcher.